toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Le sujet fait son retour dans les préoccupations principales des Français dans les enquêtes d'opinion. La sécurité. Il faut dire que depuis quelques semaines, des faits d'une grande violence ont fait la une de l'actualité. Des règlements de compte entre bandes, naturellement, on en a beaucoup parlé, mais aussi des émeutes urbaines dans la banlieue de Lyon, ou encore cette histoire sordide d'une jeune fille de 14 ans battue et jetée dans la Seine pour une affaire née sur les réseaux sociaux. Des histoires qui sont toutes différentes naturellement, mais qui mettent en cause à chaque fois des mineurs de plus en plus jeunes. Le ministre de l'Intérieur se déplace à chaque fois sur le terrain, hausse le ton, promet que la police gagne toujours à la fin, ce sont ses mots. Mais à un an de la présidentielle, l'enjeu est de taille et l'exécutif entend bien ne pas laisser le champ libre à une opposition de droite très critique sur la perte d'autorité et sur l'absence de réponse de la justice. Violence, l'autre urgence de Macron, c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Bruno Jeudy, vous êtes rédacteur en chef du service politique de Paris Match. Je rappelle, le baromètre apparaît cette semaine avec Anne Hidalgo et Nicolas Sarkozy qui dévissent dans cette enquête d'opinion. Ivan Trippenbach, vous êtes journaliste à l'opinion en charge des questions régaliennes, comme on dit, police, sécurité. Alain Boer, vous êtes professeur de criminologie au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers. Je rappelle que vous enseignez à New York et à Shanghai. Enfin, Mathieu Delahousse, vous êtes grand reporter à l'Obs. Vous avez suivi le quotidien de la section des mineurs du parquet de Paris. C'était il y a un an. Je rappelle aussi votre enquête sur les adolescents de l'affaire Samuel Paty et les réseaux sociaux intitulée « L'insoutenable légèreté des adolescents » que l'on peut retrouver toujours sur le site de votre journal. Bonsoir à tous les quatre. Merci de participer à se C'est dans l'air en direct. Bruno, je dis, c'est l'autre urgence que n'avait pas forcément vu venir l'exécutif.
Oui, la remontée de l'insécurité qui vient percuter le retour à la vie normale que prépare Emmanuel Macron et qu'il promet autour de la mi-avril le mois prochain, voire début mai. Et là, l'insécurité, une succession de faits divers, très différents d'ailleurs, oui. Les rixes entre bandes dans le 15e en banlieue, l'affreux assassinat à Argenteuil, les émeutes à Bron dans la banlieue de Lyon. Évidemment, tout ça arrive un peu au même moment. Alors, j'allais dire, la délinquance était déjà déconfinée l'été dernier, souvenons-nous. Les images sont peut-être lointaines, mais il y avait eu l'assassinat d'un chauffeur de bus à Bayonne, il y avait une gendarmette percutée dans le Lot-et-Garonne, oui. Et puis il y avait eu aussi les violences incroyables de Tchétchènes à Dijon.
On avait parlé de l'été orange mécanique, c'était l'expression utilisée par Xavier Bertrand à l'époque.
Absolument, et le ministre de l'Intérieur avait embrayé surenchère en évoquant un ensauvagement. On avait commencé la rentrée de politique et l'automne avec une polémique entre le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux sur l'ensauvagement. Or, toute cette insécurité, ces violences qui se multiplient, les Français ne les ont pas perdues de vue. Tous les mois, Paris Match, on sonde les conversations des Français. Et aujourd'hui, si vous enlevez les quatre premiers sujets qui touchent tous la crise sanitaire, la campagne de vaccination, le risque de reconfinement, donc des sujets évidemment de préoccupation du quotidien, le sujet qui arrive juste après, loin devant les autres, ce sont justement les rixes entre bandes et les violences dans les quartiers. Et à un niveau élevé, à plus de 55%. Donc on voit que cette insécurité, les Français ne l'ont pas perdu de vue. Et c'est un peu comme, j'allais dire, une piqûre de rappel pour le gouvernement, pour le président qui est rattrapé en fin de mandat par des questions qui, au fond, n'ont pas été traitées ou en tous les cas de manière très insuffisante. On le voit, il y a une insatisfaction des Français sur leur protection, sur la délinquance qui monte et surtout sur ces violences qui sont le fait de gens de plus en plus jeunes.
C'est ça, ce sujet aussi, ce soir.
De plus en plus armés. Et avec ces bandes qui existent certes, qui existaient avant Emmanuel Macron, mais au fond, on nous ressort un plan bande là le mois prochain. Mais j'allais dire, ça fait 30 ans qu'il existe.
On va en parler du plan bande, comme vous dites, de Gérald Darmanin dans un instant. Alain Boer, quand vous analysez ces situations qui, on le répète, sont vraiment toutes différentes, est-ce qu'on est face à une flambée d'une nouvelle forme de violence portée parfois par des mineurs de plus en plus jeunes? On parle aujourd'hui de gamins qui ont 13, 14 ans. Qu'est-ce qu'il y a de singulier dans la situation qu'on est en train de vivre en ce moment collectivement?
Alors, comme toujours, je rappelle qu'en matière criminelle comme en matière terroriste, ce qui est nouveau ou ce qui semble nouveau, c'est d'abord ce qu'on a oublié. Les mineurs dont nous parlons étaient des majeurs. Nous avons inventé un âge intermédiaire qui s'appelle l'adolescence, qui est une pure création sociologique, mais qui n'est pas biologique et qui n'est pas d'ailleurs légale. Les âges de majorité, qu'il s'agisse de pénal, sexuel ou autre, ont beaucoup évolué, mais en moyenne, dans l'ensemble de l'univers occidental, ils se situaient au moment de la communion, où la règle hormonale, entre guillemets, entre 10 et 13 ans. C'est nous qui avons inventé un espace dont nous avons décidé unilatéralement que les anciens majeurs étaient devenus mineurs et qu'ils n'avaient aucune capacité ni de procréation ni de violence. Ceci est une création moderne, elle part d'un excellent bon sentiment, mais la loi ne change pas la biologie, ou en tout cas très rarement. Deuxièmement, il faut le savoir, ces phénomènes de violence sont connus et le fait qu'ils soient très spectaculaires avec des morts qui nous choquent ne remplace pas le fait qu'il y a cette petite musique tous les jours, toutes les semaines. Si vous regardez le bilan des agressions, des violences, des tentatives d'homicide, des coups et blessures volontaires et des règlements de compte, vous découvrez d'abord qu'il y a des cycles. Le cycle le plus élevé se situait au milieu des années 80, puis au milieu des années 90. Il y a eu ensuite une très nette baisse, une civilisation de la violence, et nous vivons simplement une inversion, une dégradation. Depuis une dizaine d'années, une dégradation rapide, accélérée, qui amène la violence à devenir un élément de régulation de la vie à la place de la loi et à la place de l'ordre, ce qui explique cette situation. Enfin, ce n'est pas un sentiment, et je ne suis pas sûr que tous les phénomènes pris indépendamment les uns des autres ne relèvent pas d'une même logique, c'est-à-dire qu'il y a un climat de violence comme mode d'intégration dans la société, d'identification dans la société, de reconnaissance sociale par la violence et par une sorte de télé-réalité de groupe ou de bande qui amène ce que vous avez indiqué au cours des éléments précédents. Mm-hmm. Et c'est tout cela cumulé qui donne un nouveau dispositif de reconnaissance de qui on est par la violence, la violence devenant un élément naturel de progression dans la société et de reconnaissance, et même un niveau de progression qui peut aller jusqu'à la prison, parce qu'on se rend très bien compte de ce qu'on fait et que la prison devient une sorte de récompense finale de diplôme de fin d'études.
Oui, alors là, du coup, les solutions à trouver vont être compliquées, mais on y reviendra dans un instant si la prison devient une sorte de récompense. Mathieu Delahousse, sur la violence des mineurs, c'est vrai, quand on regarde les chiffres, ils sont clairs, ce sont des faits perpétrés par des jeunes de plus en plus jeunes et des faits de plus en plus nombreux.
Alors, les chiffres sont toujours en réalité très compliqués parce qu'il y a des batailles d'experts et surtout des batailles très idéologiques et politiques sur ce domaine.
D'accord.
Donc, c'est le terrain le plus difficile en réalité quand on parle de la justice des mineurs, c'est celle des chiffres parce qu'on arrive tout de suite à des batailles qui ont opposé récemment effectivement le ministre de la Justice par exemple avec tous ceux qui donnaient des statistiques sur cette question. Moi, si vous permettez, je préfère parler non pas de chiffres que je ne maîtrise pas, mais d'affaires D'accord. qu'on peut davantage raconter. Et il est vrai que le défi aujourd'hui qui est présenté à la justice, il est considérable puisque ces 6 derniers mois, on a eu une dizaine de jeunes mis en examen pour complicité de terrorisme. C'était après les faits d'Erani et de Conflans-Sainte-Honorine le 16 octobre et l'assassinat de Samuel Paty, qui était quelque chose qu'en antiterrorisme, on avait quand même très peu vu. Et sur les faits qui occupent l'actualité du jour, à savoir effectivement la mort de cette jeune fille envoyée à la Seine par deux jeunes gens à Argenteuil, comme le procureur de Pontoise l'a rappelé tout à l'heure, ce sont des jeunes qui vont être mis en examen, vraisemblablement oui. dans la soirée, pour assassinat. Et on est vraiment dans des cas exceptionnels. Alors la difficulté, c'est que ce défi, il existe en termes d'affaires, il existe pour les magistrats qui devront les traiter, mais politiquement, il y a quelque chose d'assez incendiaire, puisqu'on était à un moment clé où Éric Dupond-Moretti remettant ses pas dans les chaussures de Nicole Belloubet sur la réforme des mineurs, avait réussi à l'Assemblée nationale à passer ce texte qui doit rentrer en vigueur en septembre. Et il y avait de la part de l'exécutif et des ministres, notamment de la justice, une volonté de montrer qu'il y avait une action gouvernementale là-dessus, qu'il y aurait des choses concrètes. Alors, on pourra parler des solutions, mais très clairement, cette réforme, elle peut se résumer sur une seule chose, c'est d'aller plus vite sur les sanctions. Ouais. Et effectivement, ces projets politiques, ces volontés gouvernementales se fracassent sur le réel, comme disent certains membres de conseil ministériel aujourd'hui. Et la difficulté est de savoir comment répondre ponctuellement à ces affaires qui donnent effectivement l'impression d'avoir un gonflement des statistiques absolument effrayant.
avec une classe politique et une partie de la classe politique qui ne se prive pas de marquer ce qui dysfonctionne. Je prends cette phrase de Jordan Bardella du Rassemblement national qui dit « Beauvais, Sarcelles, Lyon, Amiens, la France vit en état d'émeute urbaine permanente ».
Exactement, et ils auraient tort finalement de s'en priver. Il faut noter que la droite le fait depuis l'été dernier, on l'a mentionné. Jean Castex est arrivé dans un contexte d'insécurité énorme où il a fait de la sécurité du quotidien sa priorité et l'axe de sa déclaration de politique générale. Donc tout ça n'est pas nouveau. Et le gouvernement a créé énormément d'attentes à l'égard d'un électorat plus ancré à droite et puis de son propre électorat également. Donc effectivement, on parle de volonté gouvernementale qui se fracasse sur le réel, parce qu'on a eu le volontarisme très affiché, l'activisme même de Gérald Darmanin l'été dernier. On a eu ces annonces de Jean Castex sur l'amélioration et la lutte contre la délinquance. Et puis, on a la succession, malheureusement, de faits divers ou de drames dans l'actualité qui nourrit cette idée que l'ultra-violence a gagné la France. Mm-hmm. On peut néanmoins nuancer un petit peu ce propos-là, parce que finalement, on l'a dit, hein, les bandes ne datent pas d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur rappelle quelques chiffres qui sont quand même parlants. Si on s'en tient uniquement aux rixes de jeunes ou très jeunes mineurs, on a 357 affrontements qui ont lieu en 2020, mais il y a 10 ans...
Plus
24% exactement par rapport à l'année précédente, donc c'est en augmentation, mais globalement, sur les 10 dernières années, le phénomène est plutôt stable. D'ailleurs, en 2016... on a eu 9 morts, il y en avait 3 l'année dernière. Bon, ces comparaisons sont un peu macabres, mais c'est pour dire que voilà, le phénomène existe. Et puis, il y a 10 ans, on avait un pic à 400 affrontements contre 350, donc l'année dernière. Donc, ça a toujours existé. Il y a des transformations, notamment dans les modes opératoires. On a parlé des réseaux sociaux qui ont une place énorme maintenant. De la violence elle-même qui s'exacerbe à travers les armes utilisées, par exemple, et puis de la tendance à régler ses comptes par la violence, Alain Bauer l'a mentionné, des choses tout à fait futiles, des disputes d'adolescents finalement qui prennent une tournure dramatique et spectaculaire et qui embêtent le pouvoir politique. Et
c'est précisément le cas dans l'affaire que nous évoquions au début de cette émission. En tout cas, entre deux communications sur les taux de contamination, le gouvernement doit apporter des réponses à des faits divers qui heurtent l'opinion. Des violences gratuites perpétrées par des mineurs, le jeune Youri passé à tabac, les deux adolescents tués dans l'Essonne, des scènes de violence à Bron ce week-end et hier encore une jeune fille de 14 ans, on le disait, jeté dans la Seine par deux lycéens. L'insécurité, la délinquance, de nouveau au cœur du débat politique. Aubry Perrault, Emma Vinzan et Stéphane Lopez.
C'est sous ce pont, en région parisienne, que son corps a été retrouvé lundi, le visage tuméfié. Alisha, une adolescente de 14 ans, morte noyée. Elle aurait été poussée dans l'eau par deux adolescents de son lycée. Les parents de la victime témoignent de leur incompréhension.
Elle n'a rien fait. Elle n'était pas une personne qui faisait mal à personne. Elle ne pouvait pas faire. Pourquoi ils ont tué ma fille? Ma fille, elle ne peut pas revenir, mais elle peut avoir de la justice.
Ces dernières semaines, Alisha se disait victime de harcèlement sur les réseaux sociaux. Lundi soir, c'est la mère de l'auteur présumé qui donne l'alerte. Son fils vient de lui avouer avoir frappé l'une de ses camarades.
Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement ?
Qu'il s'était disputé avec une petite qui l'avait tapée. Je lui ai dit, c'est pas grave, moi je vais y aller dans ces cas-là. Pour moi, c'était juste une altercation, c'est tout. Je suis horrifiée pour les parents. Je suis horrifiée pour la petite, ce qui lui est arrivé. Puis en même temps, je suis horrifiée pour mon fils, parce que je ne sais pas ce qui va devenir de lui.
Les deux adolescents ont été placés en garde à vue. Sidération des lycéens devant leur établissement ce matin.
Je trouve pas ça normal qu'aujourd'hui, il y a encore des élèves qui se font harceler ou qui aient ce genre d'acte barbare. Il n'y a pas à voir ce genre de choses-là. On n'est pas des gangsters, on n'est pas des racailles.
Je me sens plus protégée en fait dans ce lycée. En fait, ça pouvait arriver à n'importe qui. Donc maintenant, tu as peur, tu te méfies de tout le monde.
L'effroi face à un règlement de compte qui tourne mal et l'extrême brutalité entre adolescents. Ces dernières semaines, les épisodes de violence remplissent les journaux quasi quotidiennement. Hier soir encore à Paris, ou la semaine dernière à Lyon, avec des scènes qui s'apparentent à des guérillas urbaines. fin février en région parisienne, Aymen est tué d'une balle alors qu'il se trouve dans ce centre de loisirs. Il avait 15 ans. Une spirale de violence qui semble inarrêtable. En janvier, l'affaire Youri défraie la chronique. Cette caméra de vidéosurveillance montre un garçon de 14 ans lynché en plein Paris. L'histoire d'une vengeance entre deux groupes rivaux, attisée par les réseaux sociaux.
Reste par terre, reste par terre. Voilà, on le voit bien là. Excuse-toi.
RD4, le nom d'une bande qui humilie un jeune, il s'était aventuré sur son territoire. Face à ce déchaînement de violence, le gouvernement annonce notamment renforcer les effectifs de police sur le terrain. De la poudre aux yeux, selon l'opposition.
On voit bien que le gouvernement réagit après un fait divers. C'est la méthode du ministre de l'Intérieur. Il fait le monopoly des lieux de la délinquance. Il tourne, chaque fois c'est la même réponse. On va créer une commission, on va relancer le plan anti-bande. Bon, il avait déjà été activé il y a quelques années, donc on n'invente rien, on réinvente l'eau tiède.
Et même nos policiers, qu'est-ce que vous voulez régulièrement? Ils nous disent « mais nous n'avons pas les ordres ». Nous n'avons pas les ordres, et si nous n'avons pas les ordres de faire, nous ne pouvons pas faire. Donc il faut que nos gendarmes et nos policiers reçoivent des ordres clairs de la part des politiques.
L'exécutif serait-il en difficulté pour lutter contre l'insécurité? La majorité s'en défend alors qu'une réforme de la justice pénale des mineurs vient d'être adoptée.
La solution, ce n'est pas de mettre tous les mineurs en prison. C'est même l'inverse qu'il faut faire, et c'est le sens de la réforme des mineurs. Donc c'est pour ça que, sur ce sujet, on veut faire les choses convenablement et avec une mobilisation de tous les acteurs. Ça, c'est sûr que c'est moins vendeur publiquement, mais c'est redoutablement efficace sur le terrain, c'est ce qu'on cherche à faire.
Le gouvernement promet aussi un nouveau schéma de lutte contre les bandes pour le mois de mai. En 2020, les affrontements entre ces groupes ont augmenté de près de 25% par rapport à l'année précédente.
Nous allons revenir sur les réponses éventuelles à apporter. Mais d'abord, avec vous, Mathieu Delahousse, cette question qui nous est posée par Yvette, qui habite dans le Finistère, et qui nous dit « On a froid dans le dos en écoutant le procureur, un trio amoureux qui tourne mal comme souvent, mais quid du sens de la vie ?»
Mais c'est la question qui se pose énormément sur tous ces dossiers où des mineurs apparaissent. C'est l'apparente... légèreté qu'ils peuvent avoir par rapport effectivement à la gravité des faits. Dans la plupart des faits divers qu'on vient d'évoquer, on est effectivement sur des mineurs, mais mineurs c'est moins de 18 ans, là on est sur des 13-15 ans, sur des gens qui sont au collège.
C'est ce que vous avez constaté quand vous étiez à la section des mineurs du parquet de Paris, c'est ça que vous avez constaté, alors, la légèreté?
Il y a une forme de légèreté. Alors ce sont des affaires en réalité très différentes, celle de l'assassinat sur cette espèce de rivalité amoureuse qui tourne mal, on est plus effectivement dans des ressorts psychologiques de légèreté. Quand on passe une semaine effectivement à la section des mineurs du parquet de Paris, on se rend compte que dans ce chaudron de la délinquance parisienne, il y a plusieurs phénomènes qui sont très identifiés, mais si on veut rester sur notre angle, entre guillemets, de celui des bandes, ce qui est le plus marquant, c'est un phénomène qui est vieux comme le monde, c'est l'esprit de groupe. Et l'esprit de groupe, ce n'est pas un phénomène qui rend les gens particulièrement intelligents. Et c'est vrai que les magistrats voient déférer des jeunes gens qui ont suivi une mode, une injonction sur les réseaux sociaux. Et c'est là-dessus qu'Éric Dupond-Moretti a beaucoup de mal, par exemple, à faire de la pédagogie politique. Il est certain, de la part de ses propos, du ministre de la Justice, que pour lui, l'incarcération est l'usine systématique à récidive pour les mineurs. De mettre aussi jeunes des gens en détention, ça provoque forcément la récidive. Mais il est clair que la difficulté, c'est d'avoir une gestion, entre guillemets, de cet engrenage qui soit la balance entre l'éducatif et le répressif, et qu'on n'arrive pas à des solutions qui paraissent très simplistes de la part de l'opinion publique et qui seront reprises systématiquement, qui sont des jeunes qui finalement n'appliquent pas par défi le volet répressif, mais ne suivent que le volet éducatif. On a le sentiment qu'il y a mal donne dans ces cas-là, et c'est vrai que la justice des mineurs est en quête d'une grande crédibilité et aussi d'une grande humanité. Il y a toute une série de professionnels qui signent une tribune ce matin, sur le site de France Télévisions d'ailleurs, pour demander finalement plus de prévention et non pas de la répression. C'est un débat qui est vieux comme le monde et qui est sur des ressorts idéologiques extrêmement, extrêmement pointus. Mais le débat, il est là. C'est effectivement de sortir des engrenages, notamment provoqués par les réseaux sociaux et de leur rapidité.
C'est ce
sujet-là.
Juste une
anecdote pour
terminer. Allez-y, je vous en prie, allez-y.
Moi, quand j'étais dans cette immersion pour ce reportage pour l'Obs, ce qui m'avait frappé, c'était effectivement d'avoir des services de police qui alertaient les magistrats le matin en leur disant « Attention, sur les réseaux sociaux, on se rend compte que ça bouge, entre guillemets, sur telle ou telle problématique qui était parfois futile. Il y avait des contentieux dont les gens n'avaient même pas la mémoire ou l'identification initiale, mais ça pouvait être une casquette, ça pouvait être une histoire, effectivement, de jeune fille qui était dans le débat, entre guillemets. Et à 14h, il y avait des signaux d'alerte avec des groupements qui pouvaient se produire, et puis à 17h, 18h, il pouvait y avoir des bagarres. Et en réalité, les magistrats, en liaison avec la préfecture de police de Paris, envoyaient des autocars ou des fourgonnettes de la police nationale devant les établissements en question. Et ça donnait l'impression d'avoir une ville de Paris qui correspondait à une salle de récréation, ou plutôt une cour de récréation géante dans laquelle on aurait placé les surveillants dans un moment de tension. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont accéléré cette espèce de processus de communication très rapide entre les groupes. Alors, c'est un univers fabuleux de partage et de socialisation, les réseaux sociaux, mais effectivement, sur ce volet-là, les magistrats que j'ai vus, moi, quelques jours en passant du temps avec eux, et les services de police qui étaient en liaison directe avec eux au téléphone, constataient finalement cet aspect très dynamique de la délinquance. Et effectivement, assez nouveau, assez effrayant, c'est un phénomène qui a moins de 10 ans.
Effrayant, dites-vous, Mathieu Delahousse, c'est peut-être le mot que je retiendrai pour interroger Alain Bauer sur ce rapport à la violence. C'est ce que nous suggère cette question ce soir. C'est vrai que quand on entend le compte-rendu du procureur cet après-midi, évidemment des coups de pied, des coups de poing à cette jeune fille qui est jetée vivante dans la Seine, des adolescents qui vont se restaurer à Paris avant de se changer, de se réfugier chez un copain, ou alors sur l'affaire Youri, des gamins qui mettent en ligne sur les réseaux sociaux des images où ils lèchent le sang de celui qu'ils ont laissé pour mort à terre. Et là, on se dit, est-ce que notre rapport collectif à la violence, est-ce que le rapport de cette génération-là à la violence a changé ?
Je ne suis pas sûr que ce soit le rapport à la violence. La violence, c'est un phénomène animal que nous essayons de domestiquer, c'est la domestication qui ne fonctionne plus, pour plusieurs raisons. D'abord, une raison qui est le temps et une autre qui est la graduation. Nous avons décidé, pour des raisons assez mystérieuses, notre système judiciaire, qui n'est pas laxiste, contrairement à ce qu'on raconte, mais qui ne sait pas faire entre rien et trop. C'est pour lui une sorte de mystère, et c'est particulièrement expressif dans le monde des mineurs. Le système considère que la punition, c'est mal, y compris la primo-punition, y compris une primo-punition limitée au fait d'exprimer une punition, qu'il faut accompagner la punition, qu'il faut faire attention à la punition, qu'il faut éviter de montrer une forme de sévérité ou d'autorité qui ressemblerait à l'autoritarisme.
Pourquoi ?
Parce que notre société a considéré qu'elle avait vécu dans un espace très fermé, très rigide, qu'elle s'en est libérée, et comme toujours, nous vivons dans les extrêmes. On passe de l'extrême rigidité à l'extrême souplesse, l'extrême liberté. Et du coup, au lieu d'intervenir vite et de manière suffisante, donc adaptée, c'est-à-dire d'avoir un système en surmesure qui évite les postures idéologiques entre les fascistes extrémistes policiers et les laxistes libéraux magistrats, les uns passant leur temps à vider la mer avec une petite cuillère, les autres mettant en liberté tout de suite des gens, eh bien, on constate des interventions de la justice au bout de la 10e, 20e, 30e, 40e, 50e, 100e comparution. Et évidemment, à la 100e comparution, on va en prison, mais on ne comprend pas pourquoi on y va à la 100e. Alors, la prison n'est pas la réponse. Alors, ça, il y a un consensus général.
Ça, on est d'accord. Mais sur ma question sur la violence.
Tout a raté. Oui, mais la violence, elle est l'expression de tout ce qu'on n'a pas interdit et qui permet d'y aller, alors même qu'on n'a pas eu droit à l'expression de l'interdit. Mmh. Nous l'avons peu à peu supprimé, nous l'avons dilué. Nous nous sommes fait peur tout seuls, tellement nous étions contents d'avoir été libérés de nos parents ou de nos grands-parents et de la rigidité des années 50 ou 60, nous avons sombré dans l'extrême inverse. Et on a ça sur à peu près tout. La redécouverte des problématiques de débat sur l'insexe ou la sexualité des mineurs n'est pas un phénomène nouveau, mais c'est la réaction inverse et insupportable à quelque chose qu'on trouvait de facile et normal. Et d'ailleurs, le pire que vous pouviez voir sur un débat sur la violence ou sur les mineurs, c'est le même débat que ceux qu'on a vu sur les questions sexuelles, pris sur les questions de violence, sur les mêmes plateaux, à la même période. Mmh. Nous vivons simplement un grand retour à la normale, et ce retour de balancier est extrêmement violent sur la question de la violence, comme sur tout le reste. Toutes les questions sociales se trouvent inscrites sur le même élément. Et donc, que ça soit le temps de la décision judiciaire ou la gradation de l'intervention, le fait qu'on recule le plus possible l'intervention du système de sanctions, ce qui du coup affaiblit la prévention parce qu'on n'en fait pas vraiment, et la dissuasion parce qu'on se demande à quoi ça pourrait servir, eh bien on est toujours trop tard et sur trop grave.
Bruno Jeudy, bon courage quand on vient d'entendre ces deux démonstrations à la fois de Mathieu Delahousse et de Alain Bauer pour l'exécutif, pour trouver le bon calibre. En tout cas, on sent bien que politiquement, certains s'engouffrent dans la brèche. On a vu Éric Ciotti tout à l'heure dans le reportage. Éric Ciotti qui dit il faut maintenant un encadrement militaire des jeunes délinquants et il estime qu'un temps considérable a été perdu. Chacun y va de ses propositions avec cette espèce de retour en arrière, de retour de manivelle, avec une demande de plus d'autorité.
Ouais, vous pouvez même ajouter une autre réaction qui de Julien Aubert, qui est vraiment, alors pour le coup, un député LR assez du Sud, qui dit un peu moins de rhétorique, un peu plus de trick. Donc oui, on voit aussi, ça, oui. La droite, évidemment, ne veut pas se laisser doubler par le Rassemblement national, dont on a vu dans votre reportage que Marine Le Pen, évidemment, pouvait largement capitaliser sur ce qui ressemble quand même à une vraie difficulté pour Emmanuel Macron depuis le début du mandat. Il s'était peu préparé à ces questions. Il a eu trois ministres de l'Intérieur avec, on va dire les choses de manière un peu, comment dire, ils ont diversement réussi. Mmh. Et ils pensaient, avec Gérald Darmanin, avoir trouver quand même la martingale du bon ministre issu de la droite qui pourrait justement faire écran à toutes les critiques, étouffer toutes les critiques venant de la droite.
Mais c'est risqué politiquement la situation dans laquelle on se retrouve, c'est-à-dire de voir ressurgir sur le devant de la scène cette question de la sécurité. Si on se remémore d'autres présidentielles, Absolument. Ça a souvent été des points de bascule pour la présidentielle.
Souvent des points de bascule. Nicolas Sarkozy en 2007 quand même, son passé de ministre de l'Intérieur, l'aide d'abord à conquérir la candidature à droite, puis ensuite il s'appuie beaucoup sur son action de ministre de l'Intérieur. Il y a une promesse d'homme à poigne à l'Élysée. Et puis si on se remémore 2002, Lionel Jospin, au fond, il laisse tellement de plumes dans cette affaire de sécurité qu'il tarde à prendre vraiment au sérieux pendant la cohabitation avec Jacques Chirac, qu'il finit par se faire doubler dans la dernière ligne droite. Et il est devancé par Jean-Marie Le Pen. Loin de moi l'idée de dire que les quelques centaines de milliers de voix qu'il a manquées, ça viennent de là. Mais en tous les cas, ça ne l'a pas aidé. Donc le débat sur la sécurité qui revient, Bauer a raison, de manière récurrente sur la table. Et quand ça revient un peu à la veille de la présidentielle, dans un contexte, dans un climat comme on a actuellement, c'est forcément mauvais pour le pouvoir en place, qui en plus a été très accaparé par la crise sanitaire. Emmanuel Macron, les questions de sécurité, il les avait un petit peu déléguées là à Gérald Darmanin. Il a fait quelques discours sur le séparatisme et sur la laïcité était un bon discours, et il a apporté une réponse. Il y a une réponse sans doute à un affaiblissement du discours politique depuis deux ou trois décennies, mais ça suffit pas. Maintenant, c'est surtout la sécurité au quotidien que les Français veulent voir s'améliorer, que ce soit dans les communes rurales, ouais, comme dans l'hyperurbain.
Un mot sur les émeutes urbaines à Bron. Je vous laisserai dire ce que vous voulez dire, mais juste pour mettre quand même des mots sur ce qu'on a vu dans leur premier reportage, c'est-à-dire le retour aussi des images qu'on n'avait pas vues depuis assez longtemps, des émeutes urbaines. Donc là, pour le coup, c'était à Bron, en banlieue lyonnaise. Et le ministre de l'Intérieur a dit que c'est parce que aussi la police s'en prend au trafic. C'est parce que, en gros, on essaie de régler les problèmes que ça donne cette situation-là.
Oui, c'est ce que Gérald Darmanin dit depuis l'été dernier pour justifier justement ces images désastreuses, alors même qu'il venait d'arriver à Beauvau et que les services sont au travail, évidemment. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le gouvernement, finalement, s'est mis dans un piège. Parce que Emmanuel Macron, en changeant son électorat politiquement, en opérant une sorte de translation vers la droite aux européennes, et puis ensuite en nommant Gérald Darmanin, qui a multiplié les coups de menton, qui, en fait, a créé énormément d'espoir dans cet électorat, mais même au-delà, dans toute la population, en tout cas d'attente légitime de règlement de ce problème d'insécurité, eh bien Emmanuel Macron s'est mis dans un piège parce que à présent il est très difficile de régler typiquement l'insécurité qui émane des très jeunes mineurs qui nécessitent par excellence des solutions de très long terme. Donc on a évidemment le démantèlement des filières de stupéfiants, mais la lutte contre le décrochage scolaire, les questions de rénovation urbaine, enfin, c'est tout un ensemble de politiques publiques qui ne dépendent évidemment pas seulement du ministère de l'Intérieur. Donc des solutions de long terme qui ne peuvent pas arriver tout de suite, y compris sur le sécuritaire, ça demande du temps. Par exemple, Gérald Darmanin a annoncé, entre autres ministres, a annoncé l'adaptation du plan bande dont on a parlé tout à l'heure, qui va commencer en fait au 1er mai, avec, enfin on va peut-être en parler, avec par exemple l'adaptation du renseignement.
On va y venir parce que c'est vrai que les outils ne sont pas faciles à la décharge du gouvernement, ils ne sont pas faciles à mettre en place quand on parle de ces sujets. Juste Alain Bauer sur cette question des émeutes urbaines en banlieue lyonnaise, l'argument qui est de dire bah, quand on commence à s'attaquer au trafic, bah, ça crée des remous dans les quartiers. Est-ce que c'est un argument qui tient à vos yeux ?
Ben, ça tient si les trafics étaient restés égaux par ailleurs. Alors, les trafics ont eu la chance ou la malchance de se totalement se réadapter pendant le confinement. Le trafic maintenant, c'est trafic hits ou trafic verrou. Vous pouvez l'avoir directement avec
trafic
votre
verrou.
Téléphone. Et le dispositif de livraison s'est totalement adapté à la réalité. Il s'est numérisé. Tout a changé. Alors, il reste des points de deal, il reste des contrôles des espaces, il reste que surtout des gestions, je dirais, du demi-gros des supermarchés, des points de distribution, mais qui sont beaucoup moins visibles qu'avant, puisqu'il y a beaucoup moins de clients qu'avant. Et du coup, ça a amené un deuxième phénomène, là, moins visible, mais très important, dont on ne parle pas aujourd'hui, qui sont les règlements de compte entre gangs, c'est-à-dire pas les bandes, les gangs, le niveau légèrement au-dessus. Puisqu'il y a eu une crise très importante, une crise de sécession et une crise de succession depuis une vingtaine d'années, la question de l'organisation du milieu français a totalement changé. On en parlait il n'y a pas très longtemps avec un de vos invités, Frédéric Ploquin, sur votre plateau. Et donc, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de désorganisation, de décentralisation, de guerre du réseau et des réseaux de stupéfiants qui viennent se rajouter. Et je crois que là où Gérald Darmanin a raison, c'est sur les effets de cette guerre de bande qui amène un très grand nombre de victimes en homicide et en tentative d'homicide à un niveau plus élevé qu'on l'a eu au cours des 10 dernières années, même au cours des 20 dernières années, un niveau rarement connu, mais que sur les questions de violence urbaine, j'y crois beaucoup moins. Là, c'est plutôt de la confrontation, un processus initiatique, mimétique, des répliques. Le trafic vient peut-être se rajouter au reste, mais n'explique pas du tout l'essentiel.
Alors, on en a beaucoup parlé depuis le début de cette émission. Il est censé incarner le visage de l'autorité, de la fermeté au sein même du gouvernement. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, multiplie les déplacements et les promesses de ramener l'ordre avec désormais une obligation, vous l'avez dit tout à l'heure, de résultat. Le sujet de l'insécurité est redevenu l'une des préoccupations principales des Français. Magali Lacrouze et Christophe Roquet.
Ces derniers jours, face aux violences contre la police notamment, de plus en plus filmées, un ministre de l'Intérieur propulsé en première ligne.
S'attaquer à des policiers, c'est s'attaquer à la République. Et qu'on ne peut pas banaliser ces faits en disant « c'est pas très grave, il faudrait que jeunesse se passe » ou je ne sais quelle responsabilité de la société. C'est évidemment des faits extrêmement graves. C'est un phénomène très francilien qui va de pair avec la déscolarisation, qui va de pair avec le manque d'autorité parentale, qui va de pair évidemment avec les nouvelles technologies et avec une violence que j'ai déjà dénoncée précédemment.
À ses côtés, en réunion de crise la semaine dernière, le ministre de la Justice, lui, apparaît un peu plus en retrait, un peu plus lyrique sur la délinquance des mineurs. Éric Dupond-Moretti manie la langue de l'avocat qu'il était.
On pense tous à cet instant au sang de ces enfants tués pour rien au fond.
Une différence de ton politique et de fond, bien souvent opposés l'un à l'autre. Entre Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, les frictions ont commencé dès la nomination du garde des Sceaux cet été. Une petite phrase du ministre de l'Intérieur dans le Figaro.
Il faut stopper l'ensauvagement d'une partie de la société.
Fera bondir l'ancien avocat.
Mais ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de l'Intérieur. L'ensauvagement, c'est un mot qui développe, me semble-t-il, madame, le sentiment d'insécurité. L'insécurité, il faut la combattre. Le sentiment d'insécurité, c'est plus difficile, madame. C'est pour ça que je vous dis que je veux m'adresser à l'intelligence des Français et pas à leur bas instinct. Parce que le sentiment d'insécurité, c'est de l'ordre du fantasme.
Du fantasme au Kamasutra. Il n'y a qu'un pas que le président franchit pour balayer la polémique.
C'est pas le nom, mais ce débat n'a à mes yeux. Mais il y a eu des sondages, des commentaires. Vous avez fait le Kamasutra de l'ensauvagement depuis 15 jours tous ensemble. Donc je vous laisse à votre Kamasutra. Ce qui m'importe, c'est le réel. Mais demandez aux gens. Ils n'en ont rien à faire.
Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, deux ministres phares d'Emmanuel Macron qui incarnent à leur manière la division politique de la majorité. Face à l'actualité de la délinquance des mineurs, l'un représente la droite sécuritaire.
Il ne faut surtout en aucun cas laisser quelques énergumènes, quelques délinquants ternir l'image de toute une ville, de tout un quartier dont je sais que l'immense majorité veulent vivre en paix, élever leurs enfants et vivre au sein de la République dans un cadre évidemment de sécurité et de mérite.
L'autre, aujourd'hui, se concentre sur le temps long, dit-il, de la réforme de la justice, garante des valeurs sociales.
Un Français sur deux dit ne pas avoir confiance dans la justice. Et mon projet de loi, nous en parlerons,
on va en parler tout de suite même,
a justement pour but et pour seul but de restaurer la confiance que les Français doivent avoir dans la justice, parce que de quoi parle-t-on ? On parle de pacte social ici.
Et dans les sondages de popularité, seuls 4 points les séparent. 37% pour Gérald Darmanin contre 41% pour Éric Dupond-Moretti.
Nous allons revenir sur le style Darmanin et les résultats du ministre de l'Intérieur. Mais d'abord, cette question pour vous, Mathieu Delahousse, une question de Michel dans les Côtes d'Armor qui nous dit pourquoi la justice ne sanctionne-t-elle pas les délinquants dès les premières infractions ? C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alain Bauer.
Alors, c'est hélas une question qui reprend une information fausse. Et Alain Bauer disait la même chose que moi tout à l'heure. C'est-à-dire que la réponse pénale pour les mineurs, elle existe. Alors, elle est située à 90%. La seule difficulté aujourd'hui, c'est de savoir qu'on repose sur un texte qui a 76 ans, qui s'appelle l'ordonnance pour l'enfance délinquante. C'est le général de Gaulle qui l'avait signé. C'est un texte qui a été modifié 70 fois et qui vient finalement d'être réformé à nouveau pour avoir une solution plus rapide contre les délinquants. Mais le principe en France depuis cette date, depuis cette ordonnance de 45, c'est d'avoir et la répression et l'éducation. Alors la difficulté, c'est qu'effectivement, jusque-là, les mesures éducatives s'inscrivaient dans quelque chose de plus facile et de plus naturel que la répression qui est appelée de ses voeux par une partie de la classe politique, parce que la répression sur un jeune de 13 à 16 ans ou alors de 16 à 18 ans, donc passible en cas de crime de la cour d'assises des mineurs, ça signifie immédiatement des solutions extrêmement difficiles à mettre en œuvre pour l'institution même.
Voilà, donc, c'est réalité, ça qui est important. Pardonnez-moi, je vous coupe pour être bien sûr de comprendre, Mathieu Delahousse. Vous dites les sanctions, parce que c'est important, on a énormément de questions ce soir sur cette tonalité-là, avec l'idée qu'on ne les sanctionne pas suffisamment dès les premières infractions. Vous dites, si, les sanctions sont prononcées, mais elles ne sont pas toujours appliquées suffisamment rapidement et toujours appliquées ?
L'esprit de la loi, c'est qu'avant 18 ans, la sanction est une sanction éducative. C'est un pack commun, si vous voulez, où on ne peut pas prononcer une sanction seule. C'est l'esprit de la loi qui est resté avec la gauche, avec la droite ces dernières années, qui a certes été réformé, mais il est vrai que la difficulté, c'est cette gradation. Ouais. Si on veut sortir de tout concept juridique et de tout discours politique, l'esprit de cette ordonnance de 45, c'est de se dire que le délinquant est un homme, un jeune homme en devenir qui a pris un mauvais chemin et qu'on va tenter de le rattraper.
D'accord.
C'était le texte. Évidemment, nous aussi, observateurs, on peut être fracassé face au mur du réel en lisant certains dossiers et certaines affaires. La réalité judiciaire n'est pas forcément un secteur qui donne un grand espoir en l'humain tout le temps, mais c'est l'esprit de la loi, c'est comme ça que c'est appliqué, et effectivement, c'est pour ça que l'excuse de minorité, par exemple, s'appliquera non pas parce que le procureur ou un juge dans son coin le décide, mais parce que la loi est comme ça, cette minorité, le principe de la minorité s'appliquera pour les deux jeunes gens qui devraient être mis en examen ce soir pour assassinat à Pontoise.
Alors, je vous pose la question autrement. Il n'y a pas besoin d'outils. Il n'y a pas besoin d'outils supplémentaires pour faire face à cette violence des mineurs.
Il y a un outil supplémentaire qui va rentrer en application au mois de septembre et qui était un serpent de mer judiciaire depuis des années. C'est Christiane Taubira la première qui avait essayé de le faire, Nicole Belloubet ensuite et Éric Dupond-Moretti qui a réussi à le faire. C'est ce qu'on appelle la césure de la peine. Alors je ne veux pas être très technique, mais c'est simplement le fait de pouvoir s'appuyer sur des sanctions, non pas plus dures ou moins dures, parce qu'on considère qu'à cet âge-là, la sanction peut être évolutive. Mais d'agir plus rapidement. Moi, j'ai déjà vu, devant des cours d'assises, des adolescents qui étaient poursuivis pour des faits criminels, des viols, par exemple, commis à l'âge de 16 ans. La justice était dans un processus qui était tellement long au niveau de l'instruction qu'ils se retrouvaient à 21 ans devant la cour d'assises. Et entre-temps, ils avaient eu un travail, ils avaient fondé une famille, ce qui n'excuse rien du crime, on est bien d'accord. Mais du coup, les sanctions n'avaient plus aucun intérêt. Aujourd'hui, la réforme qui, encore une fois, me semble venir à la fois de la gauche et de la droite avec des tas de nuances, parce que les gens de justice aiment bien avoir des tas de nuances et des tas de fondements idéologiques très compliqués, mais le fondement, c'est qu'aujourd'hui, un crime ou un délit est commis par un mineur, un adolescent. La sanction est prise, selon le ministère de la Justice, dans les 3 mois, alors qu'avant, il fallait attendre 18 mois. Et ensuite, au bout de quelques mois où on demande au jeune homme de réparer, de rembourser, d'indemniser sa victime, d'aller à l'école, de retourner dans son établissement, etc., on prononce la sanction. Et donc, il y a une forme, encore une fois, de mise à l'épreuve, et la césure, elle est faite pour ça. Tout le monde sait que c'est une solution intéressante, personne ne pense que c'est une solution miracle.
On a entendu Bruno Jeudy dans le reportage à l'instant, Éric Dupond-Moretti et le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à un moment donné s'échauffer parce qu'il n'incarnait pas forcément la même ligne, l'un parlant d'ensauvagement, l'autre parlant de sentiment d'insécurité. On pensait même que c'était une expression qui n'était plus utilisée. Est-ce que désormais, j'allais dire, il nage dans le même sens ?
Oui, plutôt. On est plutôt dans un... Vous savez, la figure du couple intérieur-justice, c'est vu un peu comme la République. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu des couples vraiment en tension il y a quelques décennies. Même plus près de nous, Nicolas Sarkozy, Dominique Perben. Là, aujourd'hui, ça fonctionne plutôt correctement. Le début a été compliqué, effectivement. Gérald Darmanin a voulu mettre son empreinte sur et tracer le sillon de son action avec ce mot très fort d'ensauvagement, directement quand même emprunté à la droite extrême ou à l'extrême droite. Évidemment, avec le passé qu'il a, Éric Dupond-Moretti, lui, n'a pas du tout fait sien ce mot. Et d'ailleurs, la récréation a été sifflée par Emmanuel Macron lui-même qui a refusé ce mot. Donc...
Il y en a un qu'on voit plus que l'autre dans les médias, en tout cas, pour
absolument.
L'instant.
Absolument. Celui,
on voit beaucoup Gérald Darmanin,
celui qui a été installé, sur le plateau, c'est Gérald Darmanin, parce que, Ivan le disait, Emmanuel Macron a modifié son électorat, il est plus à droite, donc il a besoin d'un Gérald Darmanin fort. Or, au bout de 9 mois, on va dire que ça tarde quand même à produire des effets. Certes, il a plutôt apaisé la maison. Il n'y a plus les syndicats qui sont en train de manifester dans les rues et huer le ministre de l'Intérieur. Là, sur ce front-là, ça marche. Sur le front des résultats, forcément, ce sera lent. Et le style sarkozyste,
oui,
d'aller sur le terrain, d'arriver, de tout de suite réagir, bon, ça montre ses limites. C'est-à-dire, bon, il vient, il annonce 20 policiers, il redéploie 20 policiers là, 10 policiers là. Bon, on n'a pas le sentiment que les Français vont être plus rassurés parce que le ministre de l'Intérieur s'est précipité sur les lieux d'un fait divers. En tous les cas, il n'a pas réussi à renouveler la communication de l'Intérieur.
Alain Boer, face à ce genre de situation, à chaque fois on se retrouve dans le même débat entre d'un côté la police, de l'autre côté la justice, les uns et les autres se renvoyant la responsabilité. Est-ce que c'est naïf de ma part d'imaginer qu'à un moment donné, face à l'ampleur du défi qui nous est collectivement posé, qu'il y ait des sortes d'états généraux sur ces sujets-là, mettant côte à côte autour d'une même table à la fois la police et la justice ?
On essaye, ça fait à peu près 50 ans qu'on essaie d'avoir en France une conférence de politique pénale, c'est-à-dire un endroit où on mettrait des magistrats, des policiers, des éducateurs, des responsables sociaux et zéro journaliste zéro, pour avoir un dialogue où personne ne serait en posture, mais on pourrait commencer à se parler.
Et on n'y arrive pas pour l'instant, ça fait 50 ans qu'on essaye. Jamais, voilà, c'est ça.
Jamais. En fait, s'il y a des endroits, par exemple, à l'École nationale de la magistrature, à l'École nationale supérieure de police, il y a des formations dites de police judiciaire ou de police judiciaire sur les mineurs qui permettent à des magistrats, des gendarmes et des policiers de se parler. De temps en temps, un académique ou un universitaire est invité et peut assister à un événement historique. Personne ne s'insulte. Et on peut commencer à travailler sur cette question. Malheureusement, ce qu'on appelle une conférence de consensus, la seule fois où ça a été essayé, c'était à Christiane Taubira, mais elle n'avait invité à cette conférence de consensus que des gens qui étaient déjà d'accord entre eux avant. Alors la conférence de consensus avec pré-consensus, ça n'a aucun intérêt. Une conférence de consensus, c'est un endroit où on pourrait commencer à discuter de nos positions différentes. Et je voudrais donner un exemple pour compléter ce que disait très justement Mathieu Delahousse. Nous faisons des statistiques vécues. Pas de la statistique sur des chiffres qui sont la forme la plus élaborée du mensonge, comme chacun sait, mais des vécus. Ce qu'on voit sur les mineurs, c'est que sur 100 primo-auteurs, 70 ne recommenceront jamais après une simple admonestation, un sermon, un passage devant un élément symbolique ou parents, éducateurs, etc. 30 vont recommencer. Évidemment, on ne le peut pas le savoir avant. Donc les 100 premiers, ils ont tous droit à une deuxième chance. À partir de la deuxième chance, vous n'avez plus qu'un niveau mineur, réduit, minoritaire de mineurs délinquants, auteurs, récidivistes ou réitérants, suivant la définition judiciaire qu'on utilise. Ouais. Et sur ces 30-là, à la fin, il en restera grosso modo 5 qui, à eux tout seuls, produiront 50% de l'activité criminelle ou délinquante. Voilà, des super spreaders, si on était dans un virus, ou des hyperactifs du crime et de la délinquance. Alors évidemment, ce chiffre est à prendre avec les précautions, il n'est pas le même par type de criminel. C'est une représentation. Ouais. En fait, ce qu'on essaye de faire depuis toujours, c'est traiter les 95% comme les 5%. Et donc, on prend un temps infini avant de déterminer que les 5% sont vraiment les 5% et que cela vaudrait vraiment plus s'en occuper que les autres et prendre des mesures beaucoup plus sur mesure que les autres, dont, si c'est nécessaire, la sanction et l'enfermement. Mais ce qu'on fait, c'est on attend de voir jusqu'où ça va pour trouver la bonne solution. Et là, chacun est en posture. La prison et l'école du crime, ne les mettons donc pas en prison. Oui, mais ils continuent pendant ce temps-là. Ah, il faut donc les mettre en prison. Et rien entre les deux.
On en parlait tout à l'heure, parce que les solutions, malgré tout, le ministre de l'Intérieur essaie d'en poser quelques-unes sur la table. Le plan bande, c'est ce qu'on vous l'évoquait rapidement tout à l'heure. En réalité, ça va être de la posture politique ou est-ce qu'on attend des choses concrètes?
Alors, il y a eu un effet d'annonce, bien évidemment. Il y a quelques choses concrètes, par exemple l'adaptation du renseignement, le fait que les services vont davantage surveiller les réseaux sociaux, des choses où ils n'allaient pas forcément, type Snapchat, TikTok, là où effectivement les conflits peuvent s'envenimer très vite entre adolescents. Et puis, on a une sorte de cartographie qui va se faire par quartier, par exemple dans les fameux quartiers de reconquête républicaine. Mais ça, c'est pas du tout nouveau, hein. Ça existe depuis des dizaines d'années. Sous le quinquennat précédent, on avait les fameuses zones de sécurité prioritaire. Enfin voilà, c'est des choses qui ont toujours été répétées,
qui vont être réactivées.
Un petit peu comme une habitude administrative, qui là sont réactivées. Mais le problème, c'est que au niveau politique, on a créé une attente. Le gouvernement a créé une véritable attente et doit donc montrer des résultats rapidement, sachant que il y a un vrai problème qui commence à se poser. On l'a mentionné tout à l'heure, Bruno Jeudy l'a dit, du côté de l'électorat de droite, on a publié un sondage dans le journal L'Opinion à ce sujet de l'Institut Harris Interactive, qui montre, alors c'est avec toutes les précautions d'usage, que Marine Le Pen pourrait atteindre 47% des voix en 2022, au second tour de 2022, face à Emmanuel Macron, 53%. Et quand on regarde dans le détail, eh bien on se rend compte que l'électorat de droite est très réticent à voter Emmanuel Macron face à Marine Le Pen dans ce cas-là, 40%, et 20%, un peu plus de 20%, pour aller chez Marine Le Pen. Pourquoi c'est important de regarder ces chiffres-là? Parce qu'en mettant à l'agenda politique l'insécurité, la délinquance et les phénomènes de bande, comme on le voit, le gouvernement prend le risque de se tirer une balle dans le pied, en fait, de montrer son incompétence et aussi de créer une surenchère, parce que maintenant l'extrême droite parle de barbarie, puisque le gouvernement parle désormais d'ensauvagement.
Alors c'est l'un des autres sujets qu'il a fait la une de l'actualité cette semaine. Il devra peut-être désormais enseigner sous protection policière. L'un des deux professeurs de Sciences Po Grenoble témoigne ce soir pour C'est dans l'air. Klaus Kinzler a vu son nom jeté en pâture, accusé de tenir des propos islamophobes. Il estime que la liberté d'expression recule à l'université. Lasso Gelabert et Mélanie Nunes.
25 ans que ce professeur d'allemand enseigne à l'Institut politique de Grenoble. Klaus Kinzler est aujourd'hui sous protection policière. En novembre dernier, il échange par mail avec sa collègue à propos d'une journée consacrée au racisme et à l'antisémitisme. Il refuse d'accoler le terme « islamophobie ». Ses messages sont diffusés sur les réseaux sociaux. Il est aussitôt accusé de racisme.
On refuse le débat, tout simplement, en préférant la diffamation. En disqualifiant l'adversaire, on peut dire « to cancel », en l'annulant. Hein, c'est la traduction de « cancel culture » en français, en l'annulant, au lieu d'essayer de réfuter ses arguments. Il y a une nouvelle génération de jeunes maîtres conférences et professeurs qui ont entre 30 et 40 ans à peu près, et qui sont arrivés à l'Institut bourrés d'idéologie, en fait, et de militantisme. Et il mélange militantisme et science.
L'autre enseignant mis sous protection policière, son collègue, aurait refusé des étudiants syndiqués à un de ses cours, où il aurait tenu des propos inappropriés. Jeudi dernier, leurs noms sont placardés sur les murs de l'Institut, avec cette phrase « Des fascistes dans nos amphis, l'islamophobie tue ». Des affichettes aujourd'hui retirées, mais toujours pas revendiquées. Une initiative maladroite pour le principal syndicat étudiant, même s'il légitime la mise en cause des professeurs.
Il y a eu des problèmes de discrimination syndicale, il y a eu de la diffamation, il y a eu des propos qui ont été jugés par certaines personnes comme islamophobes ou en tout cas qui niaient l'islamophobie. Aujourd'hui, si on n'obtient pas des excuses de ces deux professeurs, notamment pour la discrimination et la diffamation, oui, on va sûrement demander des sanctions disciplinaires. Et on espère que la direction nous suivra sur cette voie, puisque pour nous, c'est inacceptable ce qui s'est passé.
Des accusations fermement condamnées par la direction de l'école. De leur côté, rares sont les enseignants à s'être exprimés sur cette polémique. Ce professeur, choqué par ce collage sauvage, appelle à un retour au calme.
Il faut être capable de rediscuter au niveau de Sciences Po, puisqu'on sait faire, en fait. On sait parler des questions de discrimination à l'égard des musulmans. On sait parler des questions de montée de l'islamisme politique et de radicalisation. Et que ce qu'on offre à voir, c'est pas du tout ce qu'on est capable de faire. Et donc, je pense qu'avec beaucoup d'enseignants et beaucoup d'étudiants aussi qui sont d'accord avec ça, on s'est dit qu'il fallait absolument retrouver la voie du dialogue.
Bien loin des salles de l'université, c'est toute la classe politique qui est émue 5 mois après l'assassinat de Samuel Paty lors de l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine.
Ce qui est sûr, c'est que ces polémiques nourrissent des adversaires politiques, que ce soit l'islam politique, que ce soit d'éventuels mouvements terroristes, on l'a vu, qui s'appuient là-dessus, que ce soit l'extrême droite.
Quand on jette en pâture des enseignants et qu'on les accuse sans aucune preuve, en leur mettant quasiment une cible dans leur dos, je considère que c'est du terrorisme intellectuel.
On veut empêcher des débats quand ils existent et qu'ils sont portés par nos enseignants. Et en plus, on les dénonce, on les met en danger, parce que c'est bien ça qui se passe. On sait que malheureusement, dans notre pays, quand vous êtes accusé prétendument d'islamophobie, vous pouvez être en danger de mort.
Après un signalement effectué par la direction de l'école, le parquet de Grenoble a ouvert une enquête pour injures publiques et dégradation.
Je dis, c'est un autre type de violence, hein. L'absence de débat possible apaisé désormais, le fait qu'on jette des noms en pâture, des noms de professeurs, aujourd'hui, voilà, ce que je disais Valérie Pécresse, ça intervient naturellement après l'affaire Samuel Paty, donc ça résonne dans l'ensemble de la société. Ça fait partie aussi des urgences de l'exécutif.
Il faut le relier à la décapitation de Samuel Paty, parce que ça intervient 3 mois après, et les bras nous en tombent quand on regarde ce reportage et qu'on se dit que des noms d'enseignants sont jetés en pâture. Ça veut dire que des étudiants pensent qu'ils peuvent non seulement peser sur le contenu du cours, mais ils peuvent aussi choisir les enseignants et les faire exclure. ça dit beaucoup de la dérive dans les facultés de sciences humaines, ça dit beaucoup de l'impossibilité de débattre en France, ça dit beaucoup de la dérive aussi sur fond de développement du numérique.
Et c'est ce qu'avait voulu pointer la ministre de l'Enseignement supérieur. Alors, elle a été un peu maladroite sur la méthode.
Absolument, elle a été un peu maladroite sur la méthode. En plus, elle a choisi de confier la mission au CNRS, ce qui est quand même un peu étonnant parce que le CNRS lui-même est plutôt suspect aussi de, j'allais dire, coupable pour certains d'islamo-fascisme. Elle aurait plutôt dû désigner la haute autorité ad hoc sur l'enseignement supérieur et la recherche. Mais peu importe, elle avait raison sur le fond, elle a mis les pieds dans le plat, elle a été très critiquée et le ministre Blanquer a eu des mots extrêmement durs après Grenoble parce que là, on joue avec la vie d'enseignants. C'est ça quand même qui se passe là. On est en France et c'est la vie d'enseignants qui sont aujourd'hui sous protection policière. On est dans les mots peuvent tuer. Ça a été le cas avec Samuel Paty, il faut le rappeler. Et là, ce sont deux enseignants qui sont mis gravement en cause avec un syndicat UNEF qui est vraiment en plein naufrage.
Votre sentiment sur cette affaire, Alain Bauer, vous disiez les mots qui tuent, mais des mots qu'on ne peut plus aujourd'hui aborder sereinement. On parlait du débat peut-être un jour possible entre police et justice. Voilà des mots qui sont désormais des mots qui hérissent.
Nous sommes victimes surtout d'une évolution du dispositif qui fait que nous n'avons plus des étudiants, mais des consommateurs d'études qui considèrent qu'ils peuvent agir sur le contenu, parfois la notation, les dispositions. En fait, ils sont en situation de négociation ou de rapport de force. Alors, il y a une partie idéologique, mais elle n'est pas nouvelle. Et d'ailleurs, tout jeune maître de conférence, assistant, maître assistant, comme on disait dans le temps, a eu à un moment ou à un autre une pensée militante et une activité militante, et tant mieux parce qu'elle était essentiellement politique, mais elle n'avait pas d'arrière-pensée d'élimination, elle visait simplement à la confrontation, et la confrontation des idées, encore plus dans un institut d'études politiques, c'est plutôt rassurant. Là, on est dans une forme de khmérisation de l'enseignement supérieur avec la même légèreté entre guillemets que celle dont on parlait tout à l'heure. C'est une légèreté d'un autre type, mais c'est une légèreté assumée, préméditée. C'est l'élimination de la pensée différente et contradictoire, ce qui va faire qu'on va retrouver des facultés entre guillemets conservatrices face à des facultés entre guillemets gauchistes, et chacun pourra aller exactement entendre le discours qu'il a envie d'entendre et qui n'est plus ni la science, ni l'ouverture d'esprit, ni le contradictoire, ni même le droit à la confrontation. Et quand on est dans les vérités alternatives dans la vie en général, on trouve parfaitement normal d'avoir des vérités alternatives en matière scientifiques. Et pour ne donner qu'un exemple terrifiant, c'est les vérités alternatives en matière sanitaire, par exemple.
Et nous revenons maintenant à vos questions. Comme d'habitude, des annonces sur l'impunité zéro et puis plus rien. C'est ce que vous disiez précisément
tout à l'heure.
C'est
le risque. Exactement, c'est le risque auquel s'expose le gouvernement. Il faut absolument des résultats rapides. Ils n'ont plus que 14 mois avant la présidentielle. Emmanuel Macron va être jugé aussi à l'aune de ces sujets d'insécurité. Donc, effectivement, il va falloir montrer des résultats. Simplement, comme on l'a dit, les solutions sont forcément de long terme. On n'est pas à l'abri qu'il y ait d'autres drames, d'autres meurtres qui arrivent dans l'actualité. Et donc, politiquement, oui, ça va être très compliqué à gérer pour eux.
Depuis combien d'années ce phénomène de bande existe-t-il ? Pourquoi l'avoir laissé se développer ? Peut-être Alain Bauer sur cette question ?
Depuis qu'il y a des territoires avec des individus dessus qui se regroupent et qui s'y implantent, puis qui s'y l'approprient, puis qui jouent une tentative d'expansion vis-à-vis du territoire d'à côté.
Donc depuis longtemps.
Et ce qui crée un léger sujet. Alors entre Clochemerle, Roméo et Juliette et West Side Story, on peut trouver la datation qu'on veut. C'est un phénomène humain. Et après, ce qui a géré le phénomène humain, c'est la loi, la mise en place d'outils, le guet, la police, les dispositifs locaux qui ont permis d'apaiser et de pacifier. En fait, nous sommes aujourd'hui dans une inversion de tendance et c'est pour ça que ça fait plus mal, parce que nous avons connu une pacification de la violence et nous connaissons aujourd'hui une régression.
Que sont devenus les îlotiers ? C'était un outil intéressant, surtout associé à d'autres initiatives. Ces jeunes manquent de repères. Mathieu Delahousse.
Alors, les îlotiers, c'était effectivement le grand débat politique qui avait agité Daniel Vaillant, ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, mais en tout cas c'est à cette période politique, sur le phénomène des bandes, qui est très parisien, et qui concerne également l'Île-de-France, il y a trois ministres, on a beaucoup parlé de Darmanin et Dupond-Moretti, mais Blanquer est dans la boucle, si l'on peut dire, et par ailleurs, la future police municipale d'Anne Hidalgo est en train d'essayer de reconstituer ce tissu, ce qui est assez paradoxal en termes de dossiers quand on les voit passer, que ce soit devant les parquets ou devant les tribunaux, c'est qu'en réalité, on essaie de rattraper par la fibre humaine cette délinquance qui passe par des moyens de communication qui sont virtuels et invisibles. C'est retrouver une présence dans la rue pour faire passer des messages qui se passent de façon parallèle sur Snapchat, sur TikTok et sur tous les sites qu'on a cités tout à l'heure.
Bruno Jeudy.
Oui, la présence humaine avait été au cœur de la campagne municipale à Paris notamment, puisqu'en fait, il y avait chaque candidat avait fait ses statistiques, et c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de policiers dans certains quartiers. 5000 policiers municipaux à terme. Alors, il y a eu tout le débat sur l'armement ou pas de la police municipale. La maire de Paris a choisi de ne pas les armer. On sait que beaucoup, notamment à droite, pensent qu'il faut, et même à gauche, pensent qu'il faut armer la police municipale. Ce qui est certain, c'est que le retour des îlotiers, on les appelle les hirondelles aussi, je crois, il y a encore avant. C'est important, la présence humaine. Et là, il n'y en a plus, et ça contribue peut-être à cette insécurité, ou cette perception d'insécurité, le fait qu'on n'en voit plus. Et aussi dans les transports, ce sera un sujet pendant la campagne des régionales, la police des transports.
Et Alain Bauer, lors d'une précédente émission, vous nous expliquiez que les policiers étaient parfois vécus dans cette guerre des bandes comme une autre bande, c'est ça ?
Mais oui, c'est le principe de ce territoire n'est pas régulé, et donc tout intervenant sur le territoire est un concurrent, un adversaire.
Y compris quand il est policier.
C'est que l'adversaire avant, il était un perturbateur, maintenant on organise des guet-apens. Ça, c'est une vraie rupture par rapport à toute l'histoire de la criminalité et de la délinquance urbaine. Le fait d'organiser un guet-apens pour agresser policiers ou pompiers d'ailleurs est un événement inédit.
Je ne suis pas fan du RN, mais l'idée de toucher les parents démissionnaires au porte-monnaie ne mérite-t-elle pas d'être tentée, Mathieu Delahousse ?
Alors, là aussi, gros débat et grand déchirement idéologique dès qu'on évoque ce genre de questions. Le principe, là encore, je pense qu'il faut le voir dossier par dossier. La démission des parents, c'est un très bon slogan, c'est parfois une réalité plus difficile. Effectivement, quand il y a des parents inscrits dans une criminalité organisée et que les enfants suivent ce même chemin, la question peut se poser. La difficulté est sans faire... sans suivre l'angélisme prononcé par certains syndicats, ni le côté très pratique mis en avant par d'autres qui président des audiences. En réalité, si on prive de fond des enfants qui sont déscolarisés, en général, on les amène vers une marginalisation qui est pire.
Messieurs Dupond-Moretti et Darmanin, ne sont-ils pas plus complémentaires qu'opposés ? Ils n'ont pas le même rôle.
Oui, absolument. Bien sûr qu'ils sont complémentaires et ils se sont rendus compte que leur communication devait l'être aussi au bout d'un certain moment et ils se sont affichés main dans la main sur plusieurs projets de loi, comme le projet de loi séparatisme par exemple, et sur plusieurs dossiers. Simplement, effectivement, il y a toujours une petite dissonance qui existe entre eux, qui est institutionnelle et qui, on l'a dit, est un petit peu une habitude française. Et encore une fois, il y a une dissonance de positionnement politique qui risque effectivement de poser un certain nombre de problèmes.
Avant, le harcèlement s'arrêtait à la sortie de l'école. Maintenant, grâce, entre guillemets, aux réseaux sociaux, il dure 24 heures sur 24. On en a un peu parlé depuis le début de l'émission. Ça, effectivement, c'est une spécificité de l'époque.
Oui, l'introduction des réseaux sociaux et de cette compétition et de ces harcèlements et agressions sur numérique, évidemment, a accéléré les phénomènes de bande.
Alors, une autre question qui va arriver. Pensez-vous que les voyous craignent notre justice ? À votre avis, Mathieu Delahousse, pour terminer cette émission rapidement.
La réponse est effectivement non sur le côté dissuasif, mais tout le monde est d'accord sur les mineurs. Les mineurs, tout le monde, y compris les magistrats, considère que quand on est arrivé au tribunal, c'est trop tard. Ouais. Tout le monde rêverait d'une prévention, rêverait d'une compréhension de la loi, mais ça, c'est un monde idéal qui n'existe pas.
Bon, bah, merci.
C'est ce que dit Éric Dupond-Moretti, qu'il faut aller... beaucoup trop de mineurs arrivent sans avertissement judiciaire au tribunal.
Merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h50. On se retrouve demain, 17h50, pour un nouveau C'est dans l'air. Tout de suite, c'est à vous.